Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, nous allons revenir sur cette grande question qu'est la retraite. La semaine dernière, on avait exploré, en fin de compte, les questions de démographie pour voir si les projections du gouvernement étaient valides. Elles ne le sont pas. Et nous allons, cette semaine, voir la question plus précisément du financement. Alors, le gouvernement agite un déficit provisoire, il faut le dire, de 12 ou 13 milliards. Parfois, on nous dit pour 2027, parfois pour 2030, parfois pour 2035, c'est assez flou. Ce qu'il faut dire avant tout, c'est que ce déficit provisoire n'inquiète pas le président du Conseil d'orientation des retraites. Il dit que c'est absolument pas catastrophique. Et le président de la Cour des comptes, quant à lui, dit qu'il n'y a aucun élément qui lui est fourni pour valider ce genre de projection. Alors, un déficit provisoire et hypothétique par conséquent, qui correspond en réalité simplement à 3% du budget annuel des 370 milliards d'euros de financement de notre régime général. Donc globalement, c'est pas grand-chose, mais vous et moi, forcément, un milliard, ça peut nous faire peur, on sait pas trop à quoi ça ressemble. Alors il faut dire avant tout que ce déficit est lié à des salaires trop bas, puisqu'en fin de compte, nous le savons, la cotisation est un pourcentage sur le salaire qui ne suivent même pas ces salaires l'inflation. Donc évidemment, quand on baisse les salaires, eh bien, par voie de conséquence, on baisse les rentrées de cotisation. C'est lié aussi aux emplois précaires, qui sont de plus en plus nombreux dans notre pays, au fait que nous avons trop de chômeurs et au fait qu'il y a des exonérations de cotisations qui sont considérables. Je vais revenir sur l'ensemble de ces points et on va voir ensemble qu'il n'y a pas péril en la matière. Et même si on était un petit peu correct finalement sur la gestion de ces cotisations, et sans, si elle n'était pas sabotée, on aurait même plus de sous qu'il n'en faut. Alors, je reviens sur ces 12 milliards. 12 milliards, c'est quoi? Eh bien, j'ai regardé par rapport à la fortune personnelle de Bernard Arnault, vous savez, notre multimilliardaire. Eh bien, ces 12 milliards, c'est 1/15 de la fortune personnelle d'un seul homme, Bernard Arnault. Autant dire que si on lui piquait ce 1/15, et encore piqué, on peut discuter sur le fait que cet argent lui est légitimement dû. Si on prenait ce 1/15 de 12 milliards, par conséquent, il ne s'en apercevrait même pas. Donc vous voyez que tout est relatif en la matière. Donc le gouvernement, lui, ben, il poursuit finalement son sabotage, puisqu'en 2023, cette année, il a l'intention de supprimer la CVAE, c'est-à-dire la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui rapporte à l'État 4,3 milliards, c'était le cas en 2022. Donc d'un côté, on nous agite pour faire peur ces 12 milliards, et de l'autre, très discrètement, on prévoit encore de saboter finalement le financement de notre protection sociale et le financement aussi de nos services publics avec discrètement la suppression de plus de 4 milliards de rentrées pour 2023. Alors les solutions, il y en a. Il y en a, puisque vous savez que donc les cotisations sociales, ce sont finalement les rentrées pour la protection sociale, dont la retraite. Eh bien, quand on regarde par rapport à ce qu'on a déjà subi en 2022 et qu'on risque fort de subir en 2023 avec cette inflation importante, si seulement on compense de 5% cette inflation qui est plutôt aux alentours de 10%, avec une augmentation de salaire de 5% dans le privé, on rentre par voie de conséquence 9 milliards de plus dans les caisses pour la branche retraite. Donc quand on affaiblit les salaires, on affaiblit les cotisations sociales et donc le financement de la retraite. Et 5% de salaire d'augmentation, ce qui d'ailleurs est inférieur, mais j'ai pris ce chiffre-là, à l'inflation réelle, eh bien c'est 9 milliards de plus de rentrées pour la retraite. Donc on voit qu'il y a des solutions, et lesquelles solutions ? En la matière, en matière de salaire, donc par conséquent, ça ferait du bien à plus d'un titre. Alors j'ai regardé aussi par rapport à la fonction publique, une augmentation de 5%, et encore le terme augmentation n'est pas juste puisque l'inflation est supérieure à ça, une modification de 5% de l'indice dans la fonction publique, eh bien c'est 1,5 milliard de plus pour la retraite. Donc on voit que en réglant certains problèmes, celui du pouvoir d'achat, eh bien, de fait, on a en même temps des sous pour la retraite. Alors, j'ai fait aussi un autre calcul, le passage de 35 à 32 heures, puisque on sait aussi qu'on a des chômeurs qui frappent à la porte, hein, avec 1,27 million d'emplois en plus, par voie de conséquence, en réduisant donc le temps de travail, eh bien, c'est tout simplement 13,6 milliards de plus pour le budget de retraite. Donc, on voit aussi qu'en réduisant le temps de travail, avec donc les embauches correspondantes, 1,27 milliard d'emplois en plus, eh bien, on trouve nos 13 milliards qui sont annoncés comme déficit lointain et incertain. Tandis que là, ces 13 milliards, ils seraient bien concrets, si l'on peut dire. Et finalement, ça arrangerait quand même beaucoup de monde, non seulement de travailler moins longtemps, mais aussi de trouver du boulot pour tous ceux qui en réclament. Une autre comparaison, celle des 400 000 fonctionnaires que l'on réclame pour la fonction publique hospitalière. Vous savez que les syndicats réclament l'embauche de 400 000 fonctionnaires pour notre santé. Eh bien, l'embauche de 400 000 fonctionnaires pour notre santé, eh bien, par voie de conséquence, c'est 5 milliards de plus pour la retraite. Donc, on voit bien qu'en jouant sur le niveau des salaires et qu'en jouant sur le nombre d'emplois, on trouve beaucoup de sous pour financer notre retraite. Alors j'ai regardé aussi la suppression de l'écart des hommes par rapport aux femmes qui, dans la réalité, écart de salaire est de 28%. Eh bien, c'est 6 milliards de plus pour notre budget de retraite. 6 milliards, quand je dis 6 milliards, c'est par an, alors que c'est 13 milliards qu'on nous agite. C'est un déficit à plusieurs années incertain, comme je l'ai déjà dit. Alors, il y a des solutions. Il y a des solutions, notamment sur l'argent que l'on donne sans contrôle, hein, pour soi-disant aider les entreprises. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle pour vérifier que ça va au bon endroit. Il y a 157 milliards, vous voyez que c'est beaucoup plus, 157 milliards d'euros annuels qui sont donnés en aide publique pour les entreprises, c'est-à-dire 13 fois plus que ce déficit lointain annoncé. Eh bien, si l'on s'assurait que ces 157 milliards d'euros qui, pour l'essentiel, vont aux grosses entreprises, y compris les multinationales, sont véritablement justifiés, on trouverait largement et très largement davantage de sous que ces 13 milliards de déficit annoncés. Voilà ce qu'il en est. Donc, on a largement de quoi trouver des sous pour peu que la politique soit différente. Alors, j'ai regardé aussi les exonérations de cotisations sociales. Eh bien, là aussi, ces exonérations de cotisations sociales cumulées par an sont supérieures, finalement, là encore, à ces 13 milliards qui nous sont agités à plusieurs années. Donc, on a de quoi faire pour financer notre protection sociale et la retraite. Il faut redire sans doute que finalement, s'il y a une cotisation sur le salaire, il n'y en a pas pour les spéculateurs de tout poil. Donc, on pourrait aussi imaginer qu'une cotisation soit basée sur l'ensemble des revenus et pas seulement sur ceux des salaires. Et là encore, quand on regarde les chiffres, on trouverait davantage d'argent que ces 13 milliards si l'argent de la spéculation, des revenus issus de la spéculation, en tout cas, était cotisé, ce qui n'est pas le cas. Alors, il faut aussi parler des conséquences sur l'augmentation, finalement, de la durée du travail théorique à 64 ans, puisque l'on sait que, par voie de conséquence, les gens ne vont pas, en réalité, en majorité, ni aujourd'hui à 62 ans, et encore moins demain à 64 ans, à l'âge de la retraite, tout en continuant de travailler. En réalité, la plupart de la population va se retrouver en longue maladie ou au chômage avant 64 ans, puisque c'est déjà le cas pour 62 ans. Eh bien, finalement, c'est un transfert qui s'opère, notamment en direction de l'assurance chômage, puisque les responsables de cette assurance tirent un peu la sonnette d'alarme, puisque, en fin de compte, c'est davantage de chômeurs âgés qui vont frapper à la porte de Pôle emploi, puisqu'on le sait tous, il y a des exclusions pour les salariés, qu'on va dire vieillissants, hein, c'est d'abord eux qui sont victimes finalement des différents plans de licenciement en tout genre, parce qu'ils coûteraient trop cher, parce qu'ils ne s'adapteraient pas, etc. Donc il y a eu un calcul de fait là-dessus d'ailleurs. Abaisser à 60 ans, c'est-à-dire revenir finalement à l'âge initial de la retraite, c'est 10 milliards d'économies pour l'assurance chômage qui, elle, aujourd'hui et encore plus demain, si ça passe, va se retrouver avec des gens qui frappent à la porte pour être pris en charge au titre de l'assurance chômage parce qu'ils ne peuvent plus être dans les entreprises et pour boucler jusqu'à leur âge véritable de départ à la retraite qui, dans un certain nombre de cas, sera donc 67 ans s'il n'y a pas de décote, ce qui est le cas du projet, puisque le projet n'a pas amélioré finalement ce départ à la retraite sans décote qui est à 67 ans. Alors voilà en ce qui concerne un certain nombre de solutions pour le financement de notre retraite qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est absolument pas dans une situation catastrophique, hein, puisque Moscovici, qui est donc le président de la Cour des comptes, l'a redit ces jours-ci devant les micros, on ne lui fournit pas, à la Cour des comptes, aucun élément pour valider un quelconque déficit à moyen terme. Donc, il y a pour le moins doute sur ces 13 milliards qu'on nous annonce, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut relativiser, hein, c'est un 15e de la fortune de Bernard Arnault, donc on pourrait largement trouver des solutions sans pénaliser des millions de travailleurs. Cela étant dit, il faut revenir sur la répartition de la richesse qui est le sujet central. Le président de du corps, le Conseil d'orientation des retraites, lui, il regarde ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, qui est la richesse produite dans le pays. C'est à travers ça qu'il faut regarder où on en est de notre système de retraite, c'est-à-dire les richesses créées, à quoi elles servent, à engraisser ceux qui sont déjà très riches, ou à servir notamment dans le domaine du pouvoir d'achat et dans le domaine de la protection sociale, la population laborieuse. Alors, en France, le produit intérieur brut, finalement, ne sert pas tant que ça au financement des retraites. On pourrait faire largement mieux, puisqu'on est à 13,8% de l'utilisation du produit intérieur brut pour financer les retraites, avec un taux de remplacement, c'est-à-dire la différence, le taux de remplacement, c'est la différence entre le dernier salaire versé et le niveau de la retraite, qui est entre 70 et 75% selon les différents régimes complémentaires. Donc, on est à ce taux-là, et on regarde par rapport aux autres pays européens, lui en est pas les meilleurs dans ce sens-là, puisque l'Italie trouve le moyen, l'Italie qui est pas un pays si extraordinaire que ça, trouve le moyen de dépenser non pas 13% de son PIB pour les retraites, mais 16,2%. Donc on voit qu'on peut faire mieux, hein. Si on produit des richesses, il faut que ça serve au plus grand nombre, et que par contre, en Italie, eh bien, ce qu'on appelle le taux de remplacement, eh bien, il est plus élevé qu'en France, il est de 79,5%. Donc, il y a moyen, quand on y regarde de près, à faire autrement, et en France, la France n'est pas le pays qui dépense le plus pour finalement les retraites, c'est là où je voulais en venir. Alors on peut faire pire aussi. On peut faire pire puisque le Royaume-Uni, lui, dépense la moitié de ce qu'on dépense en France en pourcentage dans le produit intérieur brut pour ses retraités, c'est-à-dire 6,2%. Et le résultat, bien le résultat, il est là. C'est qu'au Royaume-Uni, finalement, votre niveau de retraite par rapport à votre dernier salaire exercé, il est de 21%. Donc on voit la situation dramatique dans laquelle se retrouvent les retraités en Grande-Bretagne à la recherche de petits boulots, en continuant à travailler à des âges très avancés, puisqu'effectivement, avec un cinquième de son salaire initial, on ne va pas très loin. Alors j'ai donné ces quelques chiffres, il y en a déjà beaucoup. C'est simplement pour dire que le produit intérieur brut est la bonne référence pour raisonner. En termes de salaire, ce n'est pas les 13 milliards qu'on nous agite, et que finalement, ce produit intérieur brut doit servir finalement à répondre aux besoins de la population laborieuse. Donc finalement, c'est là aussi où on veut nous emmener, c'est-à-dire stopper, voire baisser la répartition de la répartition pour les retraites dans ce PIB, en augmentant finalement la part qui va à la spéculation et au grand capital. Hein, c'est la tendance générale déjà depuis un certain nombre d'années. Et c'est là où on veut nous emmener. Donc je termine là-dessus en disant que des solutions, il y en a, des solutions qui en plus régleraient largement la question du chômage, la question de la réduction du temps de travail et aussi la question de la baisse du pouvoir d'achat que l'on subit déjà depuis des années et que l'on risque fort de subir encore en 2023. Voilà pour ce qui était de cette chronique qui était basée sur les solutions et le financement. La prochaine chronique que je ferai la semaine prochaine sera axée sur la retraite pour les carrières longues, puisque là on nous raconte aussi beaucoup d'histoires, et la retraite pour les femmes qui sont déjà discriminées, et on essaye de nous faire croire que le projet améliorerait la situation lorsque ce n'est pas le cas. Je vous annonce aussi qu'à Saint-Antonin-Nobleval, le 8 février à 17h30, dans une salle de la mairie, nous organiserons un débat public sur les questions pour la retraite. Donc tout le monde est le bienvenu sur ce sujet le 8 février à 17h30 à Saint-Antonin. Je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.